Bonjour à tous les Auroviliens. Alors aujourd'hui, je vais vous lire Sri Aurobindo, la manifestation supramentale sur la Terre, traduit de l'anglais par Douce Mère. Dans le passé, pareille destinée du corps fut rarement envisagée. Du moins pour un corps ici-bas sur la terre. On imaginerait, plutôt, on verrait des formes de ce genre comme le privilège d'être céleste, mais elles sembleraient impossibles comme une demeure physique pour une âme encore liée à la nature terrestre. Les Vaishnava qui parlent d'un corps spirituel conscient, Shimaya Deha, on découvre aussi la conception d'un corps radieux, en lumineux ou lumineux, qui serait peut-être le, alors c'est en sanskrit, le Jyoti Maya Deha Védique. Certains ont vu une lumière irradier le corps de personnes hautement développées spirituellement. Ceci pouvant aller jusqu'à l'émanation d'une aura enveloppante. On relate un début de phénomène de ce genre dans la vie d'une personnalité spirituelle aussi grande que celle de Ramakrishna. Mais ces phénomènes sont rares, fortuits, ou bien ils n'existaient qu'en concept, et la plupart du temps, on ne considérait pas que le corps eût des possibilités spirituelles n'y fut capable de transformation. Il a bien été dit que le corps était le moyen de réaliser le dharma. Dharma, c'est la loi profonde qui gouverne l'individu. Et le dharma inclut tous les desseins élevés, les accomplissements ou idéaux de la vie, sans en exclure le changement spirituel. Mais c'était un instrument que l'on devait laisser tomber une fois le travail terminé. Certes, il peut et il doit y avoir une réalisation spirituelle pendant que nous sommes encore dans un corps, mais elle ne peut parvenir à sa pleine fructification qu'après l'abandon de cette forme physique. Une façon générale, la tradition spirituelle considérait le corps comme un obstacle, comme une substance incapable de spiritualisation ou de transmutation, un poids lourd qui attachait l'âme à la nature terrestre et empêcher soit son ascension vers l'accomplissement spirituel en le suprême, soit la dissolution de son être individuel en le suprême. Mais si cette conception du rôle du corps dans notre destinée convient assez bien à une sadhana, considère la terre simplement comme un lieu d'ignorance et la vie sur terre comme une préparation à une sortie salvatrice hors de la vie, qui serait la condition indispensable de la libération spirituelle. Elle est insuffisante pour une sadhana qui conçoit une vie divine sur la terre et qui estime que la libération même de la nature terrestre fait partie du dessein total de l'incarnation de l'esprit ici-bas. C'est une transformation totale de l'être et notre but. La transformation du corps doit indispensablement en faire partie. Sans elle, aucune vie divine intégrale n'est possible sur la Terre. L'évolution passée du corps et surtout sa nature animale, son histoire animale, semble être l'obstacle à cet accomplissement. Le corps, nous l'avons vu, est le fruit ou la création de l'inconscient, lui-même inconscient ou seulement semi-conscient. Et il a débuté comme une forme de la manière inconsciente à donner naissance à la vie et d'objet matériel est devenu une poussée vivante à façonner le mental et de la subconscience de la plante et de la première mentalité rudimentaire ou de l'intelligence incomplète de l'animal à façonner la mentalité intellectuelle et l'intelligence plus complète de l'homme. Et maintenant, il sert de base physique, de logement et d'instrument à toute notre entreprise spirituelle sur la Terre. Son caractère animal et ses limitations grossières sont certainement un obstacle à notre perfection spirituelle. Mais le fait qu'il ait façonné une âme et qu'il soit capable de lui servir d'instrument peut indiquer aussi qu'il est capable d'un développement ultérieur et qu'il peut devenir un sanctuaire, une expression de l'esprit, révéler la spiritualité secrète de la matière, devenir conscient entièrement au lieu de l'être à moitié et parvenir à une certaine unité avec l'esprit. Ce progrès-là, au moins, il doit le faire. Jusqu'à ce point, au moins, il doit transcender sa nature terrestre originelle. S'il veut devenir l'instrument complet de la vie divine au lieu d'être un obstacle. Néanmoins, les inconvénients du corps animal, de sa nature animale, de ses impulsions animales et les limitations du corps humain, même le meilleur, sont présentes au début et persistent aussi longtemps que n'intervient pas la libération complète et fondamentale. Or, son inconscience ou sa semi-conscience, son empire sur l'âme, sur le mental, sur la force de vie qu'il enchaîne à la matière, enchaîne aux matérialités de toutes sortes et aux appels de la nature terrestre non régénérée, s'oppose constamment à l'appel de la vérité de l'esprit et circonscrive l'ascension au degré plus haut. Il apporte à l'être physique l'esclavage des instruments matériels du cerveau, du cœur, des sens et leur obscur mariage à la matière et à toutes sortes de matérialisme, l'esclavage du mécanisme corporel et de ses besoins obligatoires, l'esclavage de la nécessité impérieuse de la nourriture et la préoccupation d'avoir les moyens de se la procurer ou de l'amasser. L'un des soucis obsédants de la vie, l'esclavage de la fatigue, du sommeil, de la satisfaction des désirs corporels. De même, la force de vie dans l'homme est enchaînée à ses petitesses. Elle est contrainte de restreindre le champ de ses ambitions et de ses ardeurs plus larges, de réfréner l'élan qui le pousse à dépasser l'attraction de la terre et à suivre les intuitions plus célestes de ses facultés psychiques. L'idéal de son cœur et les aspirations de son âme. Alors, les intuitions plus célestes de ses facultés psychiques sont l'idéal de son cœur et les aspirations de son âme. Au mental, le corps impose les frontières de l'être physique, de la vie physique, et le sentiment que seules les choses physiques ont une réalité complète, tandis que le reste est simplement une sorte de feu d'artifice brillant de l'imagination, un jeu de lumière et de gloire qui ne peuvent avoir d'existence complète que dans les cieux de l'au-delà et sur des plans d'existence supérieurs, mais certes pas ici-bas. Il jette sur les idées et les aspirations du poids, le poids du doute. Le témoignage des sens subtils et de l'intuition, l'incertitude sur l'immense étendue de la conscience et de l'expérience supraphysique, l'accusation d'irréalité, et il accroche à ses racines terrestres, la poussée de l'esprit qui voudrait sortir des limites de son humanité originelle pour entrer en la vérité supramentale, en la nature divine. Ces obstacles peuvent être surmontés. Les démentis et les résistances du corps peuvent être vaincus. Sa transformation est possible. Mais la partie animale et inconsciente en nous peut être illuminée à devenir capable de manifester la nature des dieux. Tout autant que notre humanité mentale peut devenir capable de manifester la surhumanité de la conscience de vérité supramentale et la divinité de ce qui maintenant pour nous est supraconscient. La transformation totale peut devenir une réalité ici-bas. Mais pour cela, les obligations et les contraintes de son animalité doivent cesser d'être obligatoires. Alors je répète parce que c'est très important. Mais pour cela, les obligations et les contraintes de son animalité doivent cesser d'être obligatoire, une purification de sa matérialité doit s'effectuer afin que cette matérialité puisse se muer en la solidité matérielle de la manifestation de la nature divine, car rien d'essentiel ne doit être exclu de la totalité du changement terrestre. La matière même peut devenir un instrument de révélation de la réalité spirituelle du divin. La difficulté est double, psychologique et corporelle. La première tient de l'animalité non régénérée et à l'influence animale sur la vie, surtout par l'insistance des instincts, des impulsions, des désirs grossiers du corps. Le deuxième est l'effet de notre structure et de nos instruments organiques qui imposent leur restriction au dynamisme de la nature divine supérieure. La difficulté psychologique est plus facile à traiter et à vaincre, car ici la volonté peut intervenir et imposer au corps le pouvoir de la nature supérieure. Certains instincts et impulsions du corps se révèlent particulièrement nocifs pour l'aspirant spirituel et viennent peser considérablement en faveur d'un rejet ascétique du corps. Le reste est l'impulsion sexuelle et tout ce qui relève du sexe ou témoigne de son existence devrait être banni et rejeté de la vie spirituelle. Ce n'est pas du tout impossible, bien que ce soit difficile. Et l'on peut en faire une condition essentielle pour le chercheur spirituel. Cette condition matérielle est inévitable pour toute pratique ascétique, et bien qu'au début il ne soit pas facile d'y satisfaire, elle se révèle tout à fait praticable au bout d'un certain temps. La conquête de l'instinct et du désir sexuel est certainement impérative. Pour tous ceux qui veulent arriver à la maîtrise de soi et mener une vie spirituelle, il est essentiel pour un chercheur spirituel de les maîtriser totalement et pour les ascètes complets de les extirper. Ce principe doit être admis et l'on ne saurait minimiser son importance obligatoire. Alors juste avant de terminer, je voudrais vous dire quelque chose qui est très important. Quand Kiri Joshi, chairman d'Auroville, était à Auroville, on voyait une lumière irradiée de son corps. Et c'était une personne hautement développée spirituellement. Et ceci pouvait aller jusqu'à l'émanation d'une aura enveloppante. Quand il venait dans un endroit, son aura enveloppait l'assemblée et nous étions tous dans un calme olympien. Voilà pour Kiri Joshi, chairman d'Auroville, de la part de Ganga Lakshmi. Alors, je remercie aujourd'hui la manifestation supramentale qui a été écrite par Sri Aurobindo et qui a été traduite par Douce Mère en français. Je remercie Sri Aurobindo et Douce Mère pour cette lecture, mes prières pour son travail à Auroville Radio. Merci Priya, Ganga Lakshmi, House of Mother Agenda, Savitri Bhavan.
Oui, vous écoutez Auroville Radio from Auroville, la ville internationale in India.